France Musique. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur France Musique. On est ensemble jusqu'à 9h. Nous sommes le vendredi 30 juillet et c'est ma dernière émission avant les grandes vacances. Alors on a décidé de faire la fête aujourd'hui et de vous faire danser avec une émission autour des bals de toutes sortes, les bals swing aux bals musettes. Tout ce qui se danse sera dans Musique Matin avec aujourd'hui à 7h40 un reportage sur les bals en plein air à Paris. Pourquoi ça fait tant de bien ? Réponse avec Susanna Kubik tout à l'heure. À 7h50 dans le jeu de l'été, le dernier disque de la violoniste Lia Petrova a gagné, consacré au concerto pour violon de Beethoven et de Mozart. À 8h, les informations, le journal d'Elisa Fernandez. À 8h10, le Tour de France des festivals nous entraînera du côté d'Ardelot, c'est près du Touquet, où nous retrouverons Philippe Cassard, le nouveau directeur des plages musicales d'Ardelot. À 8h25, un dernier été des frères Jacques. Et puis à 8h30, notre invité du jour, il va nous faire danser, lui aussi, au son de son accordéon, Éric Allard-Jacquin, avec qui on parlera, entre autres, de l'actualité de son ensemble, le Bal Jacquin. Il nous fera même danser le musette en direct. Mais pour commencer la fête, je vous emmène au bal, celui qui referme le carnaval de Venise d'André Campra, avec une belle morale que je vous souhaite de partager cet été. Chantez, dansez, profitez des beaux jours. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique. Chantons, dansons, profitons des beaux jours, que le plaisir ne dure pas qu'un jour. Bah oui, on l'espère. C'est la fin du carnaval de Venise d'André Campra, interprété ici par les chantres du Centre de musique baroque de Versailles et les musiciens du concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h34. Dansez, disions-nous, dansez jusqu'à l'orgie, comme en Espagne, où le compositeur du XXe siècle, Joaquín Turina, avait lui aussi le rythme et la fête dans la peau.
Thank you.
Ça, c'est de la musique qui plaît beaucoup à l'une de nos jeunes attachées de production, méditerranéenne elle-même, enfin elle est plutôt italienne. Ici, c'est de la musique espagnole, mais enfin c'est pas loin, les Danzas Fantasticas de Joaquín Turina. C'était la troisième de ces danzas, l'Orgia, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de la BBC sous la baguette de Juanjo Mena.
C'est l'été sur France Musique.
Allez, on va passer une bonne dernière matinale ensemble. À 7h39, c'est l'heure de l'actualité musicale. Et après le ténor Thierry Dran la semaine dernière, c'est au ténor italien Giuseppe Giacomini de nous quitter. Il nous a quittés mercredi à l'âge de 80 ans. Moins connu que Pavarotti ou Carreras, il laisse cependant de beaux enregistrements, dont une Norma de Bellini aux côtés de Renata Scotto ou un Otello avec Margaret Price. Il avait fait ses débuts en 1966 dans Madame Butterfly à Vercelli, c'est une petite ville dans le nord de l'Italie, avant d'entamer rapidement une carrière internationale. En 1976, Giuseppe Giacomini avait poussé pour la première fois les portes du Metropolitan Opera de New York et puis celle de l'Opéra de Paris où on l'avait entendu dans Macbeth, Don Carlo, Le Trouvère, Payas, Tosca. Couvert de distinctions, Giuseppe Giacomini avait mis fin à sa carrière dans les années 2000 à l'occasion de son 60e anniversaire avec une dernière Tosca, c'était à Covent Garden à Londres. On parle beaucoup des commémorations du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns depuis le début de l'année. Eh bien, la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra de Paris s'associent pour présenter au Palais Garnier à Paris jusqu'au 10 octobre une exposition qui lui est consacrée intitulée Un esprit libre. On pourra y voir et on peut déjà y voir des partitions manuscrites, des lettres, des dessins, des photographies, des maquettes de décors, des costumes et autres vidéos qui rendent compte des différentes facettes du musicien. Un catalogue de l'exposition est également disponible qui reproduit l'essentiel des 200 pièces de l'exposition. Au lieu de la musique de chambre britannique, le Wigmore Hall de Londres a dévoilé sa nouvelle saison, riche de plus de 500 concerts parmi les artistes invités. On retrouvera le pianiste Andras Schiff, les violonistes Joshua Bell et Leonidas Kavakos, les chanteurs Diana Damrau, Christian Gerhaher, Jakub Josef Orlinski ou Philippe Jarouski, l'Académie für Alte Musik de Berlin ou encore le quatuor Takács. Mais avant la rentrée, il y a l'été et avec l'arrivée des beaux jours, en flânant sur les places parisiennes et les quais de la Seine, il n'est pas rare de tomber sur des balles en plein air. Salsa, rock'n'roll, tango, swing, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux, mais qu'est-ce qui pousse parfois de parfaits inconnus à se trémousser ainsi en public jusqu'au bout de la nuit ? Reportage en immersion par Susanna Kubik.
En traversant la place Colette devant la Comédie Française le samedi après-midi, on se retrouve vite encerclé de couples pris dans une danse endiablée. C'est le rendez-vous hebdomadaire du bal swing en plein air, organisé par Sylvain, juriste de métier et DJ et danseur par passion. Il est aux platines.
Il y a toujours une bonne ambiance, c'est vraiment tout le monde danse avec tout le monde. Vous voyez, des gens complètement, donc eux de très haut niveau, et puis il y a des gens qui n'avaient jamais dansé de leur vie et qui essaient. Donc c'est complètement mélangé, et c'est aussi intergénérationnel.
Alors quelle est cette danse ? Est-ce que vous pourriez me la décrire ?
En un mot, c'est la joie. C'est une danse où on joue beaucoup avec le ou la partenaire et avec la musique. Si vous regardez le bal là-bas, quand vous voyez les danseurs expérimentés, ils ont des styles complètement différents parce que chacun s'approprie la musique selon l'instant, selon la partenaire. C'est vraiment une danse à deux avec une connexion très, très riche, qui est dans les deux sens, qui est très subtile. Et donc, chacun va créer sa danse finalement. Et le swing, c'est vraiment c'est de la joie en note.
C'est extraordinaire, hein, une ambiance magique.
Elle, c'est Véronique. Depuis tout à l'heure, on ne voit qu'elle, sa jolie robe virevoltante et sa bonne humeur contagieuse.
Je cherche un danseur. J'ai perdu mon dernier danseur, malheureusement. Non, il s'est marié. Maintenant, il n'a plus le droit de danser. Bon, c'est dommage.
Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Quel du plaisir, j'imagine, de la joie ?
Beaucoup de bonheur. Surtout quand on arrive à faire une danse à deux avec beaucoup d'harmonie, quand c'est explosif, quand on arrive à trouver les pas, même une personne qu'on ne connaît pas. Vous savez, la plupart des gens avec qui je danse, je ne connais même pas leur prénom. Et on danse depuis des années ensemble. Mais par contre, je connais exactement leur style. Je sais comment ils dansent. Et ce qui est génial, c'est qu'on croit qu'on n'y arrivera pas. Parfois, on se sous-estime. On pense, ouais, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué. Mais non. Et se surpasser, c'est un plaisir.
Il y a aussi Pedro, 25 ans de swing à son actif. Lui non plus, il ne s'est jamais arrêté de danser parce que...
On peut bouger 4 heures de suite sans s'en apercevoir. Et la danse vous permet d'être totalement dans l'instant. Je pense que c'est quelque chose d'unique.
Est-ce qu'on peut être addict ? Est-ce qu'on peut être accro ?
Totalement, c'est une drogue absolue. Il y aurait des événements tous les jours, je sortais tous les jours. C'est l'addiction la plus saine possible.
Mais d'où vient cette euphorie ? Nous avons posé la question à la neurobiologiste Lucie Vincent, danseuse convaincue et auteure du livre « Faites danser votre cerveau ». Elle estime que nous ne prenons pas assez au sérieux les bienfaits de la danse sur notre corps et notre esprit.
Chaque fois qu'on va danser, systématiquement, on sort de meilleure humeur que quand on entre. C'est le moment de la plus grande détente possible. Toute anxiété disparaît. Nous savons que nous sommes tous en train de faire exactement la même chose. Et donc, de ressentir les mêmes choses, c'est très antidépresseur, le fait de bouger en synchronie avec d'autres gens.
Retour sur la place Colette. On laisse le mot de la fin à Mylène.
Oui, on oublie tout. C'est fantastique de pouvoir danser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, de pouvoir être dehors, simplement danser, profiter et écouter de la musique, c'est fantastique.
Thank you. shuffling and shuffling down. Look at the band parading all over town. Look at the happiness going around. Everybody's up and celebrating. Look at the drummer entertaining the gang. Clinging and clanging with a bing and a bang. Changing the town from dead to alive. The band they call the Sugarfoot Five. They're gonna play that Muskrat Ramble tune the way you never ever heard it played. Get ready for the big parade. All together now, one and two. Come on and join the happy throng. Feel the beat of that hustling, bustling muskrat song. Come on and ramble along.
Je suis sûr que ça vous donne envie de danser chez vous, cette musique. C'est un extrait du tout nouvel album du clarinettiste canadien Evan Hansen. L'album s'appelle Counter Melody. Ici, c'était Muscat Ramble, une mélodie, une chanson, un standard même de Kidori et de Ray Gilbert. Et c'était avec la voix de Catherine Russell, Evan Hansen à la clarinette et au saxophone et ses musiciens. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h51. C'est l'heure du jeu de l'été. À gagner ce matin, le disque Beethoven, Mozart, les concertos pour violon en ré majeur de la jeune violoniste Lia Petrova, avec la Sinfonia Varsovia dirigée par Jean-Jacques Kantoroff. Alors en plus d'être une musicienne virtuose et très inspirée, Lia a eu l'idée de réunir deux concertos de Mozart et de Beethoven qui ont en commun une tonalité, la tonalité solaire, claire, brillante de ré majeur, l'un ayant été composé en 1806 à Vienne, l'autre à Salzbourg en 1777. Alors pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question que je vais vous poser. Vous nous écrivez en utilisant l'onglet « Contactez-nous » de la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Vous n'oubliez pas, comme chaque matin, de nous indiquer votre adresse complète. Alors voici la question. Comment appelle-t-on la célèbre lettre ? C'est une question facile, hein, je précise tout de suite, mais c'est la dernière. Alors on a été gentil. Comment appelle-t-on la célèbre lettre de Beethoven dans laquelle il fait part de son désespoir d'être devenu sourd et où il exprime son désir de surmonter le mal pour l'amour de la musique et parce qu'il a encore mille choses à dire à l'humanité. Est-ce que c'est la lettre à Élise, la lettre à l'immortel bien-aimé ou le testament d'Heiligenstadt ? Dans quelle lettre célèbre, une lettre qui n'avait jamais été envoyée d'ailleurs, Beethoven avait fait part de ses doutes. Est-ce que c'est la lettre à Élise, la lettre à l'immortel bien-aimé ou le testament d'Heiligenstadt ? C'est à vous de jouer, vous avez jusqu'à 8h50. Thank you. De la musique qui danse ce matin. Je vous avais dit qu'on vous ferait danser jusqu'à 9h dans Musique Matin. Alors là, c'était le violon de Lia Petrova qui dansait, en l'occurrence, avec la Sinfonia Varsovia sous la direction de Jean-Jacques Kantorov. Et c'était le rondo final du 7e concerto pour violon en ré majeur de Mozart, qui est donc couplé avec le ré majeur de Beethoven. Et c'est le disque qui est en jeu ce matin. Vous pouvez continuer à nous écrire et à participer jusqu'à 8h50 pour notre tirage au sort. Je vous rappelle la question. Quelle est la lettre célèbre de Beethoven dans laquelle il fait part de ses doutes, la lettre à Élise, la lettre à l'immortel bien-aimé ou le testament d'Heiligenstadt?
Bonjour, c'est Thomas Vergracht. On se retrouve pendant tout l'été, chaque samedi à 12h30 sur France Musique pour Versus, le rendez-vous qui vous fait écouter la musique contemporaine autrement. Un compositeur vivant face à un compositeur du passé. Bryce Dessner versus Béla Bartok, Camille Pépin versus Igor Stravinsky ou Meredith Monk versus Josquin Desprez. Versus à retrouver également en podcast sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Oh, j'adore nos petits oiseaux qui nous réveillent et qui réveillent peut-être ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue à tous sur France Musique. Il est tout juste 8h. Et c'est l'heure du journal avec Elisa Fernandez. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Nouveau tour de vis face à la crise sanitaire en Outre-mer à partir de demain. Et pour 2 semaines, la Réunion sera confinée partiellement avec notamment un couvre-feu de 18h à 5h du matin. C'est une première pour l'île de la Réunion depuis le printemps 2020. En Martinique aussi, on s'apprête à reconfiner alors que les hôpitaux sont saturés. Pour les soulager, 3 premiers patients vont être transférés à Paris dès demain. Secouée par des bouleversements politiques depuis quelques jours, la Tunisie doit aussi gérer une crise sanitaire d'ampleur. Elle recense le plus grand nombre de décès en Afrique du Nord. La nouvelle vague de Covid a submergé des hôpitaux déjà fragilisés par un manque d'investissement. Des établissements sinistrés comme l'hôpital Abderrahmane Mami à Tunis, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Benjamin Thuot et Marie-Pierre Véraud. Ils étaient guidés par Rahim Jasser, médecin de garde au service des urgences.
Vous voyez la situation, la saleté partout, il y a même coupure d'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Il y a même des patients qui ramènent des matelas de chez eux et les mettent par terre. On se trouve avec une seule source d'oxygène. On fait des Y, une seule source qui alimente 3 ou 4 patients. Beaucoup de décès.
Mais la situation s'est améliorée. Il y a 3 semaines, les urgences de l'hôpital Mémy tournaient à 400% de leur capacité. Les familles attendaient dans la rue, quêtant désespérément un peu d'oxygène. Sans la force de la société civile, le désarroi des soignants serait encore plus grand. L'ONG Lost and Found a ainsi récolté des fonds pour distribuer des masques FFP2 par centaines de milliers aux hôpitaux, acquis des dizaines de concentrateurs d'oxygène afin de garder les patients chez eux et soulager les services d'urgence, monter des hôpitaux de campagne. Son vice-président, Mehdi Boucher, ne se résout pas au délabrement de la santé dans son pays.
Nous avons plus de 180 morts par jour maintenant et ça fait mal parce que simplement nous étions leaders en Afrique, dans le monde arabe, côté médecine. On se retrouve maintenant les derniers de la liste.
Et l'exode des médecins s'amplifie. La Tunisie perd l'équivalent d'une promotion de jeunes diplômés chaque année.
Marie-Pierre Véraud et Benjamin Thuot. Une 3e dose de vaccin pour les plus de 60 ans, c'est la recommandation que fait le gouvernement israélien à ses citoyens. Hier, dans une intervention télévisée, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé qu'une campagne de vaccination complémentaire serait lancée dimanche. Ces dernières semaines, Israël est confronté à une hausse des contaminations liées à la propagation du variant Delta. La Chine est-elle en train de renforcer son arsenal nucléaire? Selon un rapport américain publié par le Washington Post, le pays serait en train de construire 119 silos pour accueillir des missiles nucléaires intercontinentaux dans la province du Gansu, au nord-ouest, et un deuxième site serait en construction au Xinjiang. La dissuasion nucléaire est la pierre angulaire de la sécurité nationale chinoise, d'après le rédacteur en chef du Global Times, un quotidien nationaliste chinois, la correspondance de Dominique André à Pékin.
Le Washington Post s'est appuyé sur des images satellites prises au-dessus du désert de Gobi dans le nord-ouest de la Chine. Sur l'autre site découvert au Xinjiang, la Fédération des scientifiques américains montre des images de la construction d'un champ de 110 silos. Des dômes seraient installés pour dissimuler le chantier. Le gouvernement chinois n'a pas réagi à ces informations. Il y a quelques jours, le régime de Pékin a accusé les États-Unis de diaboliser la Chine, un ennemi imaginaire. Song Zhongping, ancien instructeur de l'armée chinoise, interrogée par le South China Morning Post, quotidien de Hong Kong, rejette un rapport loin d'être fiable, car, dit-il, la technologie des silos est depuis longtemps obsolète. La Chine utilise des lanceurs et a écarté les silos fixes. La capacité nucléaire de la Chine, qui a testé sa première bombe atomique en 1964, est en rapide expansion, selon les experts américains. Même si la Russie et les États-Unis détiennent plus de 90% des armes nucléaires dans le monde. Dans son discours du 1er juillet à l'occasion des 100 ans de la fondation du Parti communiste chinois, Xi Jinping a souligné l'importance d'accélérer la modernisation de l'armée en la renforçant, notamment, a-t-il dit, grâce aux sciences et technologies.
Retour en France où le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, a annoncé hier soir de nouvelles aides à hauteur de 90 millions d'euros en soutien à la filière. C'est notamment les salles de cinéma qui bénéficieront de la plus grosse part, presque 60 millions d'euros pour les aider à faire face aux pertes liées aux restrictions sanitaires. Et puis la météo avec du soleil ce matin sur tout l'est de la France et sur le pourtour méditerranéen. Des averses sont à prévoir par contre à l'ouest, mais on retrouvera des éclaircies plus tard dans la journée. Côté température, de la douceur comme hier. Cet après-midi, il fera 23 degrés à Tours et Bordeaux, 27 à Lyon et jusqu'à 30 degrés à Perpignan. France Musique, il est 8h05, l'heure de retrouver Clément Rochefort dans Musique Matin.
Merci Elisa Fernandez. Prochain journal à midi sur France Musique et puis on vous souhaite un bon week-end. Quant à nous, on est ensemble jusqu'à 9h avec dans quelques instants, aux alentours de 8h10, le Tour de France des festivals direction le Pas-de-Calais où nous rejoindrons Philippe Cassard pour parler des plages musical d'Ardelot, à 8h25, l'été des frères Jacques, et puis à 8h30, on va danser définitivement pour refermer cette émission avec l'accordéoniste Éric Allard, Jacquin. On parlera entre autres de l'actualité de son ensemble, le bal Jacquin, mais surtout, on aura droit à une petite démonstration d'accordéon musette en direct dans le studio. En attendant, si vous êtes dans la région de Deauville, eh bien sachez qu'hier soir, s'est ouvert la 20e édition du Festival de Deauville, l'août musical à Deauville, en partenariat avec France Musique, un festival qui se poursuit jusqu'au 11 août avec plein de jeunes pousses qu'on adore, enfin plein de jeunes musiciens, les pianistes Ismaël Marguin, Guillaume Bellhomme, le quatuor Hanson, le trio Arnold ou encore le génial ensemble La Tempête de Simon-Pierre Bestion qui nous a offert l'année dernière l'une des plus belles versions des Vêpres à la Bienheureuse Vierge Marie de Monteverdi et qui referme pour moi l'une des pages les plus absolument joyeuses et solaires de toute l'histoire de la musique. C'est la fameuse Sonata Sopra Sancta Maria. Pour tout savoir sur la programmation de l'août musical, rendez-vous sur leur site internet www.musicadeauville.com.
Thank you.
Vous prenez un grand verre, vous versez du soleil dedans et vous le buvez d'un coup. Moi, c'est l'impression que ça me fait quand j'écoute cette musique. C'était la sonata Sopra Sancta Maria, extrait des Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie de Monteverdi par l'ensemble La Tempête de Simon-Pierre Bestion. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h13, l'heure d'enfourcher notre petit vélo.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Et nous prenons la direction du Pas-de-Calais ce matin pour les plages d'Ardelot, les plages musicales en l'occurrence d'Ardelot qui commencent ce soir, le 30 juillet, qui se poursuivent jusqu'au 8 août avec un tout nouveau directeur artistique que vous connaissez tous sur France Musique. C'est notre pianiste national, c'est Philippe Cassard. Bonjour Philippe.
Bonjour Clément, bonjour.
Ben oui, Philippe Cassard, tout le monde vous connaît sur France Musique pour les portraits de famille tous les samedis à 14h pendant la saison. Mais là, l'été, vous avez enfilé vos shorts de plage, vos tongs de plage et votre casquette de nouveau directeur. Vous reprenez un festival qui existait déjà depuis longtemps, je crois.
Oh, depuis plus de 45 ans. C'était Claude Desmarais qui était directeur artistique. Et puis quand il a voulu quitter le festival, enfin en tout cas sa direction artistique, et bien je me suis présenté et j'ai été choisi par le bureau, comme on dit, le bureau du festival. Et alors on n'a pas pu faire l'édition 2020 qui était prévu comme un hommage à Beethoven, mais on s'est attelé dès que possible à l'édition qui commence ce soir.
Alors, est-ce que vous avez des grands changements dans la manière de diriger ce festival, de le concevoir? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau?
Alors, on a quand même essayé de renouveler les choses de la cave au grenier. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait un grand site internet où tout peut se trouver, toutes les informations. Il n'y en avait pas, hein, ou pratiquement pas. Et on peut même réserver sur ce site. Alors, c'est tout simple, hein, le site internet du festival. Ben, il a le nom du festival. Alors, c'est un petit peu long à écrire, mais c'est lesplagesmusicalesdardelot.com. Lesplagesmusicalesdardelot.com.
Sans l'apostrophe, attention.
Voilà, sans apostrophe. Hein, tout attaché, sans apostrophe, sans point, sans tiret. Lesplagesmusicalesdardelot.com. Et là, on peut réserver en ligne. Ça pouvait pas se faire, vous voyez, quand même, en 2020, en 2019. Donc là, on peut le faire. Et puis, d'autre part, moi, j'ai essayé d'inviter des artistes qui ne s'étaient jamais produits à Ardelot. Donc, on commence dès ce soir avec, par exemple, le concert de la loge olympique. Enfin, on n'a pas le droit de dire olympique parce que le site du comité...
Surtout en ce moment.
...des Jeux olympiques a... Oui, voilà, surtout en ce moment. Enfin bon, le concert de la loge dirigé par Julien Chauvin, qui est violoniste et chef d'orchestre. Et on a organisé tout un programme sur l'ensemble du festival, un peu sur les quatre saisons, sur les saisons.
Alors, est-ce que les concerts ont lieu sur les plages elles-mêmes, Philippe Cassard?
Pas vraiment cette année, mais pas loin en tout cas. Ça peut être tout à fait au bord, puisque l'église Saint-Augustin et le théâtre élisabétain du château d'Ardelot se situent très près de la mer. On a des très très beaux points de vue. C'est un lieu de promenade aussi, Ardelot. Hein. C'est une commune très vaste. Il y a Neuchâtel, Ardelot, Condette, enfin tous ces lieux. Il y a un golf, il y a des forêts, il y a la mer, il y a de très très jolis points de vue, et on peut justement se balader en journée, faire de la plage, se baigner, enfin si on n'est pas trop douillet, et puis aller au concert en fin de journée. Il y a aussi de très bonnes tables à Ardelot, donc voilà, on peut.
Oui, c'est très beau. Hein. Je peux en témoigner parce que j'y suis allé plusieurs fois à Ardelot. J'aime beaucoup cet endroit. Il y a de belles maisons aussi du début du siècle sur le bord de la plage. Oui. Et quand il fait très beau, parce que ça arrive souvent à Ardelot d'ailleurs, oui, on peut apercevoir les côtes anglaises, hein, je crois me souvenir, au loin, voilà,
absolument,
quand le ciel est dégagé. Alors, vous le disiez, Philippe Cassard, le fil conducteur, les saisons, grosse affiche hein, pour cette première du festival sous votre direction. Dites-nous un petit peu les stars que vous avez invitées.
Ben, quelques stars et des amis toujours, hein, parce que moi je place toujours mes programmations où qu'elles soient, enfin là elles sont maintenant à Ardelot, sous le signe de l'amitié, de l'estime, de l'admiration que je peux porter à tel ou tel collègue. Donc ce soir le concert de la Loge Harmonique à 20h30, et puis dimanche un récital de mon camarade Nelson Gurner, qui est quand même un des pianistes majeurs de cette génération-là, des quinquagénaires. Nelson Gurner qui jouera deux cahiers d'Iberia, d'Albéniz. Alors ça, c'est plutôt l'été, on va dire. Et puis, on aura alors une belle affiche de musique de chambre mardi au Théâtre élisabétain du château d'Ardelot. Alors, Théâtre élisabétain, c'est un théâtre qui a été construit il y a 15 ou 20 ans selon le modèle shakespearien hein, du Globe Theatre à Londres. Et alors, c'est un lieu absolument sublime, tout en bois, avec une acoustique magique, avec une proximité du public avec les artistes qui jouent sur scène. Et on aura le Quatuor Hermès, le clarinettiste Nicolas Balderou et Nelson Gurner qui reste pour jouer le quintet de Schumann. Ça, c'est mardi.
Et puis vous, on pourra vous entendre aussi, Philippe.
Parce que vous
nous présentez quand même une jeune star montante. Ça fait 2 ans que j'essaye de le faire venir dans Génération France Musique, le live. Un jeune chanteur allemand extraordinaire. Dites-nous un petit mot de lui.
Ah, c'est Samuel Hasselhorn. Et je vais vous dire, c'est un peu grâce à France Musique que je le connais, parce que je l'ai entendu un jour. J'ai entendu un extrait de son disque Schumann qui est passé sur France Musique, peut-être même dans votre émission, je saurais dire. Et ça a été un coup de foudre pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voix, cet artiste? Il venait de gagner le concours Reine Elisabeth de Belgique en chant. Et il a 30 ans, Samuel Hasselhorn. Et je lui ai écrit. J'ai écouté aussi son disque Schumann, qu'il a fait paraître il y a un an. J'ai écrit dans le Nouvel Obs sur ce disque, et puis je l'ai invité, il a accepté, alors qu'on se connaissait pas du tout, et on a répété, vous voyez, la semaine dernière, il est venu travailler, on a répété le Voyage d'hiver de Schubert, qu'on va donner le 6 août à Art de l'Aube.
À 20h30. Merci beaucoup Philippe Cassard. On retrouve toute la programmation en détail et toutes les démarches sur Radio Jazz aussi sur le site, vous l'avez indiqué tout à l'heure, lesplagesmusicalesdartdeloup.com. Ça commence ce soir. On vous souhaite un très bon festival et un bel été, cher Philippe. En attendant, on vous écoute un petit peu dans Schubert avec votre camarade de chant habituel. C'est Nathalie Dessay, bien sûr. Liebesbotschaft, cet extrait du Chant du Cygne de Franz Schubert, et c'était la voix de Nathalie Dessay accompagnée au piano par Philippe Cassard. Merci d'être avec nous ce matin, 8h22 sur France Musique. On fait le point sur l'affiche des concerts du jour, 3 concerts inédits. À 16h chez l'ami Christophe Dillis, vous pourrez réentendre un concert Rachmaninoff et Bernstein par le pianiste Igor Levit avec l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Daniel Harding. À ne pas manquer ce soir à 19h30, c'est Lionel Sparza qui vous retrouve en direct pour l'ouverture du festival de Prades, en direct de l'abbaye Saint-Michel de Cuchat. Au programme, le concerto pour violoncelle, le deuxième de Saint-Saëns et la 41e symphonie de Mozart avec la violoncelliste Sol Gabetta et l'orchestre du festival dirigé par Pierre Bleuze qui en est le nouveau directeur. Et puis à 23h, c'est l'heure du jazz comme tous les soirs sur France Musique, Jazz Été avec Marjolaine Portier-Keltenbar qui vous proposera un concert du groupe Magic Malik ce soir, Magic Malik Fanfare XP, un concert enregistré il y a quelques jours au festival de Radio France Occitanie Montpellier, mais à ne pas manquer, c'est le rendez-vous d'ouverture du festival de Prades, c'est à 19h ce soir avec Lionel Esparza. Je vous ai dit qu'il y avait Sol Gabetta, ben on l'écoute. Un extrait du concerto pour violoncelle en ut mineur de Giovanni Benedetto Plati. C'était le violoncelle de Sol Gabetta avec la Cappella Gabetta dirigée par son frangin Andrés Gabetta. Sol Gabetta qui sera donc en direct ce soir à 19h30 pour l'ouverture du festival de Prades. Un concert à suivre en direct sur France Musique.
C'est l'été sur France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h26. C'est l'heure de retrouver pour la dernière fois de l'été nos chers frères Jacques.
Et ben alors qu'est-ce que c'est ?
C'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé électrise.
Eh bien voilà, c'est la fin de notre série estivale consacrée aux frères Jacques, ces amuseurs publics doublés de fief et chanteurs, comme le dirait le papa de notre réalisatrice Taïsia, le groupe est fini. Alors j'espère que cette série vous aura donné le sourire et vous aura convaincu de continuer à explorer par vous-même les centaines de chansons que je n'aurais pas eu le temps de partager avec vous. Pour les amateurs, je conseille d'ailleurs un beau coffret double DVD édité il y a quelques années par Lina avec un spectacle intitulé Paris et Bréchet. C'est un énorme tour de chant mis en scène. Il y a aussi un deuxième tour de chant plus traditionnel qui a été filmé et puis un documentaire de 50 minutes qui s'appelle À bout portant avec des interviews inédites des quatre chanteurs. D'ailleurs, dans une interview à Libération en 2005, le plus jeune des frères Jacques, Paul Touraine, avait ainsi décrit les spécificités de chacun des membres du groupe. Je le cite, Georges Bellec était le petit comique, c'est lui qui trouvait les gestes les plus drôles. Son frère André était Monsieur Loyal, il remettait de l'ordre dans les indisciplines et c'est lui le fondateur des frères Jacques. François Soubéran Laurent, c'était lui l'élément stable. Il était le plus grand. Il avait la tête dans les étoiles et une voix magnifique. C'était notre poète. Et moi, bon, bah, j'étais le premier ténor et j'avais les rôles de fille au besoin. Quatre types simples, mais très complémentaires. Aucune hiérarchie. Chacun apportait ses idées. L'école de la modestie et de l'humilité. Dans la vie comme sur scène, aucun de nous ne se prenait au sérieux. Voilà. C'était ça, les frères Jacques. Quatre compères qui aimaient s'amuser pour nous amuser sans aucune autre prétention. Et c'est pour cette générosité-là, un peu désintéressé de tout message, que je les adore. Alors pour finir, bah j'ai choisi de nouveau une chanson de Rissé Barrié et Bernard Leloup, Thalie, qui passe en revue et en humour chacune des 9 muses de la mythologie. C'était ma manière à moi de vous dire que, quoi qu'il vous arrive, les arts sont toujours là pour notre plus grand bonheur. Thalie, les frères Jacques.
À l'école Montélicon, on fait notre éducation. Il y a 9 propres de toute beauté, les 9 muses de l'Antiquité.
Taxicor, Erato, Calliope, Polymnie, Clio,
Melpomène et Uranie,
Euthyrpe, Mamselle, Thalie. Thalie, Thalie, c'est moi de comédie. Même dans nos profondes nuits, toujours on songe à Thalie. Mamselle Calliope, elle cause bien, mais elle s'enrhume pour un rien. Chaque fois qu'elle fait achou, on lui répond Calliope, la boum. Terpsichore nous fait lancer.
Sans comme un chat, on laisse Thalie Baba.
Thalie, Thalie, galope dans son esprit, que dans ses rêves chaque nuit.
Thalie a tel et bravioli.
Euthyrpe, c'est la musique, elle passe tout à l'acoustique.
Elle m'attrape quand je cale en dos, ou vient comme un sol fait rideau.
Uralie prend sa lunette pour nous montrer les planètes. Elle ferait mieux de cacher les siennes, l'Italie pathéticienne.
M'apprendre la comédie, mais quand je crois qu'on m'applaudit, non, il y a des mythologies.
Elle promène, c'est le père du bas, mort ici et tombeau là. Pour l'histoire et la trompette, on a client de 5 à 7. Polymnie ne nous dit rien, elle seule parle avec ses mains. Et Rago nous chante les sexes dans la nuit et dans l'annexe. Mais Thalie, Thalie, c'est la plus jolie.
Thalie, par les frères Jacques, une chanson de Rissé Barrié et de Bernard Leloup. Et c'est ainsi que se refermait notre série estivale qui leur était consacrée. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Et à 8h30, il est temps d'accueillir notre invité du jour qui va continuer à nous faire danser lui aussi. C'est l'accordéoniste Éric Allard-Jacquin. On va parler ensemble de l'actualité de son ensemble, le Bal Jacquin. Mais on va parler de plein d'autres choses. Bonjour Éric.
Salut Clément, ça va?
Ben oui, très très bien. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique.
Merci à toi.
Première matinale hein, pour vous.
Ah ben, très très matinale on va dire.
Ouais. Vous n'êtes pas très matinale d'habitude?
Bon, ça dépend.
Vous êtes plutôt nocturne?
Bah, matinale, ça dépend. Moi je suis... On peut me retrouver en matinale des fois, en fin de soirée.
Voilà, mais sans la nuit.
Voilà, c'est bon comme ça.
Bon, bah écoutez, on va faire connaissance un petit peu, en tout cas pour les auditeurs. Ouais. Comment est-ce que vous avez démarré l'accordéon? On va repartir du début.
On part du début.
C'est une sorte de famille?
Ouais, mon père, il faisait de l'accordéon. Et puis, il voulait que je fasse de la musique. Du coup, je me suis dit, vu que j'avais pas trop de personnalité, j'ai décidé de faire de l'accordéon. Je rigole. Ouais. Et du coup, ouais, non, et puis en fait, non, ça m'a plu. Et puis, j'ai jamais lâché le boudin, quoi.
Oui, alors parce que j'ai lu votre biographie et il y a une rencontre apparemment très importante d'un certain Serge Gros.
Ah bah ça c'est mon deuxième papa en fait, c'est un peu celui qui m'a donné goût la carrière en tout cas de se mettre dans le niveau professionnel, de se préparer, de bosser, de l'envie, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire au niveau en tout cas pas musical mais au niveau professionnel dans tous les domaines.
Sorte de mentor.
Quoi. Ouais, c'est un peu mon mentor, ouais.
Carrément. C'était une famille de musiciens, donc vous dès le plus jeune âge, vous aviez l'habitude de voir des gens faire de la musique, d'écouter la musique, danser.
Bah pas forcément en fait, juste mon père qui était musicien, autrement le reste c'était pas forcément des musiciens non. Mais du coup, c'est justement avec Serge du coup mon ancien prof, du coup, que j'ai découvert plein de trucs, rencontré plein de musiciens. Et après, je suis monté un peu sur Lyon, c'est lui qui m'a poussé à monter à Paris aussi.
Parce que vous êtes né en Isère, hein ?
Ouais, je suis né en Isère.
Dans les montagnes.
À Grenoble. En dessous des montagnes.
En dessous des montagnes, au pied des montagnes.
Au pied des montagnes, voilà. Dans le Chaudron.
Et il y a beaucoup de... Vous alliez dans des balles, vous aviez l'habitude de cette musique populaire, des guinguettes quand
En fait, ouais, j'en ai fait quand même... Enfin, mon père, il connaissait bien un batteur qui s'appelle Michel Torelli à l'époque, à Grenoble, s'il y en a qui le connaissent. Et en fait, lui, à 10 ans, il jouait, moi, quand j'avais 10 ans, lui, il jouait pas mal avec des stars du bal musette, quoi. Et puis, du coup, dès qu'il y en a qui passaient en Isère, il me faisait jouer trois morceaux sur les planches, quoi, devant 500 personnes qui dansaient pendant 5 heures. Donc, ouais, c'était génial. J'ai fait pas mal de...
C'est comme ça qu'on apprend le métier, hein.
Ah, c'est comme ça qu'on apprend le métier, hein.
Alors ensuite, vous entrez au CNIMA, c'est un centre de formation.
Ouais. CNIMA. Ouais, le CNIMA, ouais. C'est pareil.
Bon, voilà, vous apprenez l'accordéon. Et vous, alors dans la biographie, c'est marqué, ça c'est étonnant, vous quittez l'école.
Ouais, j'ai
14 ans.
À 14 ans.
Pour la musique.
Bah, parce que j'étais très nul à l'école, mais vraiment, il n'y a pas pire. Du coup, je me suis dit, j'ai deux chances.
Est-ce que j'étais du genre à être assis au fond de la classe, près du radiateur?
Bah non, devant, parce qu'ils me connaissaient du coup, donc ils me mettaient devant.
Et puis donc, vous avez monté d'abord un premier quintet
autour de vous avec des copains. Ouais, c'était un projet d'école quand j'étais au CMDL, l'école Centre National des Musiques Didier Lockwood. Donc là, j'ai rencontré une bonne troupe de potes et on s'est dit, tiens, on va faire un premier groupe. C'était mon premier groupe en fait.
Et le deuxième, c'était le Bal Jacquin, c'est un groupe qui existe toujours. On va écouter un petit extrait de l'album qui est sorti il y a quelques temps. Le Collet Serré, ça s'appelle.
C'est parti.
Thank you.
Collet serré, c'est un titre du Baljaquin sur le dernier disque en date avec vous, Éric Allard-Jacquin. C'est vous qui composez les chansons ?
Ouais, c'est moi qui compose.
Ouais, tout.
Sauf, y en a, bah là, il y en a une, c'est Éric, mais Satie cette fois qui le fait.
Et, oui,
c'est une reprise de Gnossienne, ouais, exactement.
Ouais, voilà. L'album s'appelle Le Baljaquin, tout simplement. Alors, vous savez, ce matin, on a plein de monde dans le studio. Dès que je leur ai dit, il y a un accordéoniste, ça va être de la musique d'aujourd'hui. Alors là, tout le monde est venu. On a même la visite, et ça, ça fait plaisir, de Thierry Dupin. Monsieur Thierry Dupin, le programmateur musical de France Inter.
Bonjour Clément. Camarade.
Bonjour Thierry. Qui êtes, vous qui êtes un amateur de France Musique. Hein ?
Tout à fait, oui. Je suis
très fidèle auditeur.
Je ne suis pas de programmateur sur France Inter et grand auditeur de France Musique.
Vous connaissiez le Baljaquin ?
Pas trop, non. Je connais les groupes à travers lesquels ils jouent,
ouais.
Notamment Les Yeux de la Tête.
Oui, il y en a plein des groupes d'ailleurs de cette catégorie-là. Vous m'expliquiez
ouais.
ça hier, dans les années 2000, il y avait eu une floraison ouais, comme on, ça.
Enfin, l'accordéon est revenu effectivement à la mode avec des gens comme Gérard Blanchard, Au Petit Bonheur, Pigalle aussi, qui utilisait beaucoup l'accordéon. Mais l'accordéon était déjà très présent dans des répertoires de Renaud, notamment, même Rita Mitsouko.
Ouais.
Voilà.
Vous sentez, Éric Allard-Jacquin, est-ce que vous sentez, vous, que l'accordéon est en train de repasser d'un instrument qui était peut-être un peu ringardisé, de nouveau un instrument un peu à la mode, carrément.
Il y a effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a, ça. Ouais, ça revient. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il a toujours été un peu à la mode, mais c'est vrai que l'image, elle est moins ringarde, comme tu disais. Donc ouais. Ça fait, il y a un petit coup d'air frais qui revient, c'est cool. Puis après, il y a de plus en plus de jeunes, en fait. J'ai l'impression qu'ils s'y mettent et qu'il y a une bonne génération de bons joueurs d'accordéon qui font plein de trucs modernes. Donc ça, c'est cool.
Alors, on a même nos deux attachés de production, nos deux jeunes
Bonjour.
Attachés de production, Lara Castiglione, qui est là au micro.
Bonjour,
elle a 23
Clément.
Ans. Laure Poissonnier aussi, une
Bonjour.
Petite jeune qui est là, qui prépare l'émission avec moi toute la semaine. Elles avaient envie de vous poser une question directement.
Bonjour.
Alors, allez-y, laquelle commence ? Lara ?
Oui, avec plaisir.
Bah,
donc, Éric, nous, on se pose plutôt des questions en fait sur la fabrication de cet album, de ces musiques avec le Baljaquin. Par exemple, quelle est la part de musique improvisée dans tout ça et quelle est la part de musique écrite ?
Alors, là, ce qu'on a entendu, il y a quand même pas mal de musique écrite. Il y a toujours une petite plage au milieu pour les solos, mais la plupart des choses sont écrites. Il y a beaucoup d'écriture.
Et c'est vous qui écrivez ou vous transcrivez d'après des morceaux que vous connaissez ?
Non, c'est moi qui écris tout. C'est moi qui écris tout de A à Z devant mon petit ordinateur la nuit.
Laure ?
Alors moi, c'était une autre question, oui. Hier, en écoutant donc les musiques dans le bureau, c'est quand même hyper sympa. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'on peut louer le groupe pour animer des événements
alors,
familiaux.
Baptême, mariage, bar mitzvah,
on fait tout, on fait
divorce,
divorce aussi, on
divorce,
fait les enterrements. Les enterrements, ça marche pas
Exactement.
Mal en ce moment. Et non, tout, la totale.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai, vous faites des événements comme ça ?
Des enterrements ?
Des événements de manière générale. Non, c'est-à-dire.
Non, on fait essentiellement du concert, mais après, enfin. Ça dépend du contexte. S'il y a moyen de faire quelque chose de sympa, on est là pour ça.
Ouais, tu vois. Surtout avec les copains.
Ah bah là, il y a les copains là, les copains là-bas.
Alors d'ailleurs, on va, je vais vous laisser vous déplacer. Ouais. Vous allez prendre votre instrument parce que vous avez eu la gentillesse de l'apporter ce matin. On va tout dire aux auditeurs de France Musique. Moi, on s'est rencontrés, Éric. C'était un week-end en Isère, à la campagne. On s'est rencontrés par hasard. Vous étiez autour d'un feu de cheminée. La soirée avançant, vous avez sorti l'instrument et vous avez commencé à jouer. Vous avez tout le répertoire de toutes les chansons du monde dans la tête. Mais on a une musique qu'on adore tous les deux, c'est la flambée montalbanaise. Alors là, c'est vraiment un des tubes de l'accordéon musette. Vous nous faites une petite démo en direct. Ça y est, il a l'accordéon entre les mains. La flambée montalbanaise de Gus Wieser, version Éric Allard-Jacquin. C'est en direct ce matin sur France Musique. Thank you. Éric Alarjaquin en direct sur France Musique. Éric Alarjaquin qui nous a fait l'amitié de jouer en direct avec nous. Bravo, parce qu'en plus c'est virtuose hein, cette pièce, la flambée montalbanaise. Hein.
Ah bah ça va vite, ça tricote ouais, là. Hein.
Ouais,
vous là il y a de la tricotage de laine. Hein.
Plaisantez pas, vous n'êtes pas là pour plaisanter. Vous,
ah, je suis pas venu ici habillé en feuilles de chou pour me faire brouter le cul par des lapins comme je dis toujours.
Oui, c'est pas mal dit aussi. En tout cas, bravo. Vous en faites beaucoup de la...
Ah, je fais aussi des spectacles comiques. Hein. Enfin, pour avoir l'intermittence, c'est chaud, donc je fais les deux. Hein.
Est-ce que vous en faites beaucoup de l'accordéon de Fusette, Éric Alarjaquin?
Non, j'en fais plus. En fait. Enfin, comment dire? En fait, le... pour revenir sur mon groupe, le bal jacquin, c'était un peu le but de revenir à un bal un peu moderne en fait, avec des musiques un peu du monde, et c'est pour ça que enfin j'ai un peu laissé de côté tout ce qui est bal musette. J'en ai fait, je sais ce que c'est très bien, j'adore ça, mais je veux pas en faire mon métier forcément. C'est pour ça que je voulais revenir un peu à la base de ma culture. Je suis passé un peu par le jazz, tous ces trucs là, et je me suis quand même rendu compte que ce qui me touchait le plus, c'était effectivement cet amour de faire danser les gens, raconter des conneries sur scène, voilà, tous ces trucs-là.
Oui, en la matière, vous avez l'air pas mal, pas très doué.
Ah, mais comme
aussi,
j'ai dit,
hein,
vous pouvez aussi m'embaucher en tant que comique si vous faites vous embêter chez vous le soir.
Et Éric, alors moi j'ai quand même une question sur le type d'accordéon, parce que quand on joue du musette, ce qu'on vient d'entendre là, normalement on utilise un accordéon musette, je crois que c'est un accordéon qui est volontairement désaccordé, c'est ça?
C'est ça, bah en fait après ils sont tous un peu... En fait l'accordage c'est un truc très spécial, et il y a quand même toujours un petit désaccordage pour donner un petit peu du grain à l'accordéon, mais effectivement sur les systèmes musette, c'est doublement plus faux, voire triplement, parce qu'on rajoute encore des voix, c'est un peu comme les orgues en fait, on ajoute des voix, comme à l'orgue, et plus on en met, bah, plus il va y avoir des petits frottements.
Alors vous, c'est pas celui que vous utilisez, hein, votre accordéon?
Non, c'est pas celui que j'utilise. Ouais, non, c'est un mélange un peu concert, mais quand même un peu accordé, quand même, on va dire Frenchy, pour un petit peu avoir la touche musette un petit peu quand même.
La petite couleur locale.
Exactement.
Et ça s'accorde d'ailleurs, tiens, c'est une question.
Mais oui,
je sais pas comment on entretient. Il faut l'accorder régulièrement, comment?
Bah, en vrai, il faut le faire tous les un an, 6 mois, changement de température. Moi, ça fait 5 ans. Donc voilà. Et c'est un travail qui est quand même assez. Il y a des accordeurs d'accordéon qui font que ça. Voilà, ils font ça 10 heures par jour, et c'est un métier passionnant et très compliqué quand même. Enfin, on fait pas ça en une heure, quoi. Ça prend bien 2-3 jours. Voilà.
En tout cas, vous avez fait la comparatif avec l'orgue tout à l'heure. On peut comparer aussi les accordéonistes aux organistes un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut tout savoir faire en fait. Il faut savoir improviser, il faut savoir s'adapter, transposer quand on joue comme ça dans des groupes très différents qui nous demandent des choses différentes.
Bah oui, après, comme tout instrument polyphonique en fait, on s'adapte pour accompagner, pour faire du lead, pour improviser.
Bon, voilà. Alors, on va vous entendre avec un des groupes qui a été cité tout à l'heure par Thierry Dupin. C'est Les Yeux de la Tête.
Ah,
c'est extrait
les
d'un
copains
de...
aussi.
Bah oui, c'est des copains. C'est extrait d'un de leurs derniers albums, Murciélago à la belle étoile, une chanson de Benoît Savard-Rose.
On aimait vivre à la belle étoile, à la belle étoile. On s'aimait ivre à la belle étoile. Ah, la belle étoile. On était plein sur la route, on était plein sur le chemin, à partager notre amour du soleil qui s'éteint. On attendait que la nuit tombe et de n'y voir plus rien, que s'illuminent de noir les contours de nos mains. On avançait alors à l'odeur des guitares, au senteur de la rose et du soir. On aimait vivre à la belle étoile, à la belle étoile. On s'aimait ivre à la belle étoile, à la belle étoile. Noirci de blanches braises, de rouges incandescents, on se retrouvait toujours à mélanger nos sangs. Notre parade, une aventure, défilé de forts vivants. On fêtait notre futur sur un air innocent. On buvait à l'amour, à la mort, à la vie. Entre chiens et loups, on se bouffait d'envie.
aimé vivre à la belle étoile, à la belle étoile. On s'aimait ivre à la belle étoile, à la belle étoile.
Alors ça c'est les copains, les yeux de la tête, une chanson, c'était à la belle étoile de Benoît Savard Rose, une chanson du groupe Les yeux de la tête, c'est extrait de leur album Murciélago, un groupe auquel vous avez participé, Eric. Alors je crois que vous ne jouez plus tellement avec eux maintenant.
Oh non, je les aime plus trop, je change vite de copains moi au bout d'un moment. Non je rigole, non c'est des... Je suis parti pour faire plein d'autres trucs, mais enfin, juste pour parler vite fait d'eux, c'est un peu le premier groupe qui m'a fait monter sur des grosses scènes, un peu, enfin, ça m'a bien formé à plein de trucs, donc c'était une belle expérience et puis voilà quoi, tout, comme toute bonne chose, des fois ça a une fin. Et,
on doit bien s'amuser quand même quand on fait tout un tas de festivals. C'est quoi vos meilleurs souvenirs de festivals,
les meilleurs,
Eric?
Les meilleurs, il y en a plein. Il y en a les meilleurs, je peux pas les raconter malheureusement. Mais...
Pourquoi c'est pas racontable?
Non.
Vous allez avoir des problèmes.
Non, pas des problèmes, j'ai passé pour un ivrogne, donc.
Mais oui, mais c'est ça aussi, dans le festival, il y a fête, hein.
Ah ouais, mais c'est le métier, Clément. Si on veut être compétitif, il faut s'adapter à tout.
Mais oui, on n'y va pas que pour trier des lentilles, pour reprendre une de vos expressions fétiches aussi, Éric Alarjaquin. Non, alors, il y a un projet quand même, j'allais dire, un peu sérieux, qui vous arrive, c'est les Frivolités Parisiennes, vous ont recruté.
Exactement.
Pour le spectacle Colporteur à Paris, qui va se jouer fin décembre au Théâtre du Châtelet. Alors là, c'est peut-être un exercice un peu différent pour vous, parce que là, il y a une partition, il faut suivre. On est presque un musicien d'orchestre. Classique.
C'est carrément ça. Et enfin, j'ai fait un peu de classique, mais là c'est un chouette spectacle et je me suis un peu retrouvé avec des tonnes de partitions. J'ai un peu transpiré, mais ça va être chouette. C'est bon là, ça y est, je l'ai.
Parce que d'habitude vous jouez sans partition, vous.
Ouais, moi je joue de plus en plus sans partition effectivement quoi. Donc là ça met un petit peu. Comme je disais, la goutte de sueur pendant la lecture, quoi. Mais bon, ça va, quoi. C'est pas...
Bon, après, il vous demande d'improviser quand même un petit peu, parce que ça reste du jazz quand même, Colporteur.
Mais en fait, non, c'est quand même pas très. Enfin, c'est la base de tous les standards américains de jazz. Tout le monde s'en sert. Mais en fait, c'est quand même une sorte de transition un peu, je trouve, entre le classique et le jazz. En fait, c'est celui qui a amené. C'est beaucoup d'opérettes. En fait, ça ressemble vachement au classique. Il y a très peu d'improvisation. Et c'est le début un peu des chants comédie musicale, j'ai l'impression. Il a beaucoup inspiré de jazzman, mais je ne trouve pas que ce soit réellement de jazz.
Éric Alarjaquin, on va devoir se quitter pour ce matin.
Déjà ?
En quelques mots. Ben oui, ça passe vite, hein. Mais peut-être un dernier mot très rapide, les projets à venir, des concerts à annoncer.
Et ben là, il y a en ce moment, je suis pas mal en tournée avec Erwan, chanteur dans Java. Donc là, on a pas mal de festoches. Et puis, pour ceux qui veulent suivre le Baljaquin, je pense qu'on va bientôt enregistrer. Donc d'ici un an ou deux, il y aura un an et demi, il y aura une petite galette qui va sortir, quoi.
Ah bah, il faudra revenir nous en parler. Peut-être nous la présenter dans le live, tiens, avec le groupe.
Ce
serait sympa. Nous, en tout cas, ça nous a bien donné envie ici dans le studio de continuer à faire la Java, justement, une dernière fois avec vous et votre groupe, le Baljaquin. La chanson s'appelle La Java, tout simplement.
Merci.
Franchement, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour cet été, pour vos vacances, mais si vous voyez le Baljaquin qui passe près de chez vous, allez les écouter, allez faire la fête avec eux, allez danser avec eux. C'était La Java, un extrait de leur tout dernier disque.
Alors, c'est pas La Java, c'est le Jaja.
Le Jaja.
Ouais, le pinard.
Ah oui, un coup de Jaja. Vous voyez, moi, j'étais très musique.
Ouais.
Voilà. Bon, alors le Jaja, voilà, tout
la
simplement.
Musique après. Hein.
Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui Musique Matin. On va découvrir le nom de nos gagnants du jour. Bravo à Sophie Gouverne de Laï dans l'Yonne, à Gaël Vitet d'Argenteuil dans le Val-d'Oise et puis à Ariel Erlich de Paris dans le 14e arrondissement. Tous les trois, vous remportez un exemplaire du disque de la violoniste Lia Petrova. La réponse, c'était le testament d'Heiligenstadt. Cette lettre écrite par Beethoven à ses frères, jamais envoyée, retrouvée dans un tiroir secret après sa mort, où l'on a compris vraiment toute l'ampleur de la lutte intérieure qu'il avait mené avec lui-même pour ne pas céder au suicide, lettre très touchante où il espère qu'un jour on comprendra qu'il n'était pas colérique, qu'il n'était pas misanthrope, mais qu'il les essayait désespérément, en se repliant sur lui-même, de cacher sa surdité galopante dont il avait honte. Voilà, même les génies ont leur faiblesse. Restez à l'écoute de France Musique, la fête continue dans quelques instants avec Charlotte Landru-Chandès à 9h pour l'été classique. Bonjour Charlotte.
Bonjour Clément.
Au programme de cette dernière de la semaine.
Ce matin, beaucoup de petites anecdotes au programme et à 11h, on retrouvera notre grande interprète de la semaine, la mezzo-soprano Anne-Sophie von Auteur, dans la musique de Kurt Weill, Stravinsky ou encore Tchaïkovski.
Des anecdotes croustillantes, j'espère.
Ah, bah ça, il faut écouter pour le savoir.
À tout de suite, Charlotte. Quant à moi, eh bien, je ne vous retrouve pas puisque lundi, c'est Gabriel Oliver Aguillon qui prend le relais pour vos réveils en musique. Elle recevra à 8h30 le clarinettiste Nicolas Balderoux. Petit scoop à vous annoncer pour la rentrée, puisqu'on parlait d'accordéon ce matin. Et bien on va y avoir une émission d'accordéon tous les dimanches à 15h30, animée par l'accordéoniste Félicien Bru. Ça va s'appeler Brut d'accordéon, tous les dimanches à 15h30. C'est le petit scoop de la rentrée. Il y aura aussi d'autres nouveautés, mais pour ça, il faudra attendre. Merci à toute l'équipe du jour. Maëlle Larfassor, Titouan Labarre, Taïsia Froidure à la réalisation. Merci à toute l'équipe de Juillet, Laure Poissonnier, Lara Castiglione, Marion Guillemet, Marjolaine Portier-Kaltenbar et Florian Hainaut. Je vous souhaite à tous un bel été. Je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de Génération France Musique, le live qui promet d'être riche en découvertes et en jeunes talents. D'ici là, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous remercie pour votre fidélité, vos gentils mots que vous nous envoyez parfois, pour votre enthousiasme aussi. À présent, je me tais, je mets les voiles, direction le soleil et la mer. Restez à l'écoute de France Musique, c'est la plus belle chaîne du monde. Et avec toutes les équipes de Musique Matin de Juillet, on vous dit
bonnes vacances!
À réécouter sur francemusique.fr.